France Inter.
Ah bah ça date pas d'hier et ça s'entend. Cet instrumental remonte à 1958, presque 60 ans d'âge. Alors vous êtes peut-être quelques-uns à l'avoir reconnu, sans doute parce qu'il figure dans la BO de Pulp Fiction, à la comédie grinçante qui a écrite et réalisé en 1994 Quentin Tarantino. Rumble, c'est le titre, est l'œuvre d'un guitariste très réputé. Qu'est-ce que je dis réputé ? Faudrait dire vénéré et même déifié par les connaisseurs du nom de Link Ray. Link comme un lien, L-I-N-K, et Ray s'écrit avec un W devant, W-R-A-Y. Rumble en anglais courant, ça veut dire grondement, mais en fait le sens familier ou argotique c'est castagne ou baston. Alors pourquoi je vous fais écouter ça ? Il se trouve que Rumble est également le titre d'un documentaire récent, produit par plusieurs chaînes de télévision canadiennes, avec la participation de Arte également, donc on le verra bientôt chez nous, un documentaire consacré à un sujet aussi passionnant que méconnu, les sources amérindiennes du rock'n'roll en Amérique du Nord. Et oui, on en parle rarement parce que vous avez quantité de documentaires qui exposent par exemple les origines africaines du blues, hein, le blues, une des musiques qui évidemment parmi d'autres a donné naissance au rock'n'roll, mais vous avez rien ou presque sur le rôle qu'ont pu exercer sur la naissance du rock'n'roll, les chants, danses et rythmes des Amérindiens. Alors le blues, puisqu'on en parle, a aussi des racines amérindiennes, et on le souligne peu souvent. Un des pionniers du blues rural, Charlie Patton, était un Indien d'Amérique. Alors autre illustration, peut-être plus proche de nous, un des derniers géants vivant du blues de Chicago, le guitariste Buddy Guy, qui a grandi près de Baton Rouge, à l'est de la Louisiane, va jusqu'à proclamer que selon lui, le blues n'a rien à voir avec la musique africaine, en revanche, elle a tout à voir, selon lui, avec celle des Amérindiens présents dans cette région, en l'occurrence les tribus Houma. Bref, le titre complet de ce documentaire, qui a obtenu d'ailleurs un prix important lors du dernier festival Sundance dans le Colorado, est Rumble, The Indians Who Rocked the World. Hein, Rumble, les Indiens qui ont secoué le monde. Alors je retourne à Rumble, le titre par lequel on a ouvert l'émission. Dans la bande-annonce de ce documentaire, le cinéaste Martin Scorsese, dont le témoignage est sollicité, d'ailleurs il y a aussi celui de Iggy Pop et plein d'autres, évoque avec fascination sa découverte de ce bref instrumental percutant signé en 1958 par Link Wray et ses Rayman. Alors, Il y a d'autres témoignages, ils ne sont pas utilisés dans le film, mais on pourrait aussi les citer. Pete Townshend, des Who, très explicite à ce sujet, dit, je le cite, « Sans Link Wray et Rumble, je n'aurais jamais appris à jouer de la guitare. » Jeff Beck au sein des Yardbirds, ou Jimmy Page au sein des Yardbirds aussi, puis de Led Zeppelin, ou encore même Neil Young, pourrait dire exactement la même chose. Pourquoi ? Bah parce que Link Wray, c'est le premier à avoir utilisé ce qu'on appelle les power chords, hein, les accords en puissance, souvent en barré, au son saturé ou distordu, qui sont à la source du metal. Il se trouve que Link Wray, et là vous allez comprendre le lien, appartenait au peuple Shawnee, un important groupe indigène, donc d'Indiens d'Amérique, qui vivait dans l'Est de l'Amérique du Nord. Et pour lui, la révolte et la rébellion, un des termes dont on use et abuse pour parler de rock'n'roll, n'avait rien, si vous voulez, d'une pose ou d'une posture pour faire cool. La mère de Link Wray, imaginez, avait été attaquée à l'âge de 10 ans sur le chemin de l'école. Pourquoi ? Parce qu'elle était amérindienne. Un groupe de filles racistes lui avait carrément brisé le dos, ce qui l'avait contrainte à porter un corset pour le restant de ses jours. Et régulièrement, pendant la jeunesse de Link Wray, le Ku Klux Klan organisait en Caroline du Nord, d'où il était originaire, des réunions pour dénoncer, entre guillemets, je cite, l'abâtardissement de l'Amérique où se mêlait le sang amérindien, ce sang indigène et forcément, bien sûr, impur. En tout cas, Link Wray était une figure impressionnante, une figure qui est longtemps restée dans l'ombre, ce qui est d'ailleurs difficile à comprendre parce qu'il était extrêmement spectaculaire. Il se produisait, imaginez, sur scène, et bien avant Jim Morrison, en costume de cuir noir, avec le col relevé de son blouson, lunettes noires, l'air menaçant et impénétrable. Et puis, il a été un des premiers musiciens de rock à faire un raffut du diable sur scène. Alors comment ce Rumble était-il né ? Link Wray avait d'abord improvisé ce titre sur scène à partir d'un thème que l'organisateur du concert lui avait imposé. Un blues étrange, puisque si vous avez un bon sens du rythme, et vous le percevrez sûrement en réécoutant Rumble, ce titre fait très exactement 11 mesures et demie et non 12 comme il est habituel dans le blues. Alors selon la légende, Link Wray aurait créé ce son saturé un effet fuzz avant la lettre, en perçant la membrane du haut-parleur de son ampli avec la pointe d'un stylo. Soit 6 ans avant que, à Londres, l'anglais Dave Davis des Kinks ait l'idée de faire la même chose en 1964 avec une aiguille à tricoter durant l'enregistrement historique de You Really Got Me. Alors, une dernière chose au sujet du mystérieux Link Wray qui nous a quittés il y a déjà une dizaine d'années. Il a été un des premiers, au début des années 60, a expérimenté sur le son. Et oui, il avait converti un poulailler en studio, 3 pistes, c'est pas beaucoup, et c'est là qu'il a travaillé l'écho, la réverbération et la distorsion, à une époque où tout ça tenait encore évidemment du bricolage ingénieux, sans d'ailleurs se soucier de l'impact commercial de ses recherches. On reste en compagnie excellente de Link Wray avec son second 45 tours sorti en 1959, Rawhide, hein, cuir brut, c'est une interprétation du thème d'un feuilleton western célèbre de l'époque.
everybody's head about the bed. Bed, bed, bed. The bed's a winner. Well, the bed, bed, bed. The bed is a winner. Well, the bed, bed, bed. Well, the bed is a winner. Well, the bed, bed, bed. The bed's a winner. Well, the bed, bed, bed. Well, the bed is a winner. Well, the bed, bed. The bed's a winner. Well, the bed, bed, bed. The bed's a winner. Well, the bed, bed, bed. Well, the bed is a winner. Well, the bed, bed. The bed's a winner. Well, don't you know about the bed? Well, everybody knows that the bed is a winner. Well, the bed.
Surfing Bird, un des titres les plus ineptes et en même temps fulgurants de l'histoire du rock américain. Alors figurez-vous que ce truc improbable a été un des tubes de l'année 1964 aux États-Unis. À l'origine, le batteur d'un groupe de copains de Minneapolis, Steve Warrer, s'était amusé pendant une répétition à beugler deux chansons des Rivingtons. C'est un groupe de doo-wop, vous savez, le doo-wop, c'est ce style compagnon du rock'n'roll qui était essentiellement vocal, où l'accompagnement était à base d'onomatopées. Alors l'addition de ces deux chansons, soit The Bird's the Word, c'est-à-dire The Bird, l'oiseau, c'est le mot d'ordre, et Papa ou Mama, ou absolument aucun sens, ont donné naissance à Surfing Bird. Alors quand ce groupe qui répondait au nom pittoresque des Trashmen, hein, les éboueurs, se produisait sur scène et interprétait ce titre, eh bien c'était l'émeute parmi le public de lycéens venus l'écouter, à tel point qu'un disc jockey de Minneapolis les a encouragés à graver ce chef-d'œuvre d'art brut pour un petit label local. Alors il était loin d'imaginer que le succès serait national, et encore plus loin de penser que Surfing Bird deviendrait une sorte de classique qui inspirerait le premier rock américain qu'on peut qualifier de punk au milieu des années 60, ou simplement, si vous voulez, garage, tout simplement parce qu'il naissait dans les garages des maisons ou des lycéens, répétés avec du matériel de fortune et des compétences extrêmement limitées en l'absence de leurs parents. Alors pourquoi programmer Surfing Bird dans le cadre d'un programme consacré à l'influence des Amérindiens sur rock'n'roll américain? Ben c'est simple, c'est l'Indien Shawnee Linkray, qui, on l'a entendu dans Rumble et Rawhide, qui a été le premier à créer un rock'n'roll réduit à une pulsation élémentaire, une transe tribale répétitive et menaçante, au son comme ça tordu, distordu, et qui sonnait comme une sorte de danse sauvage et guerrière, enfin guerrière et pacifique. Et que c'est peut-être pas exagéré de dire que cette simplification, amplification et distorsion de ce qui était à l'origine le surf rock, un rock'n'roll purement instrumental, a été l'acte de naissance du premier punk rock. Une autre illustration peut en être donnée par les Stooges, le groupe de Iggy Pop dans la région de Détroit. Et Iggy Pop qui témoigne d'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans le documentaire Rumble dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui parle de l'influence sur sa propre musique de la trance tribale amérindienne. Ce titre, Down on the Street, est extrait du deuxième album des Stooges, Funhouse, qui est sorti en 70, fondamentalement un album live en studio, enregistré en 15 jours, et qui au fond est une longue trance. Down on the street.
baby, and I go.
Way I Walk, un des premiers titres signés par les Cramps, c'était en 1978, il y a près de 40 ans déjà. C'était la reprise d'une chanson qu'avait créée en son temps un pionnier du rock'n'roll qui venait de la ville de Détroit, Jack Scott. Les Cramps, où chantait le regretté Lux Interior, qui nous a quittés il y a 8 ans déjà, mais bien sûr, on l'oublie pas. Les Cramps, donc, étaient apparus au milieu des années 70 à Los Angeles, mais c'est à New York, dans les années punk 76-77, qui s'étaient révélés. Alors, les Cramps, c'était qui ? C'était des marginaux très cultivés, hein, malgré les apparences, qui avaient su voir dans la sous-culture des films d'horreur au budget misérable, avec leurs monstres en carton-pâte, ou encore les numéros de striptease forains, une forme de poésie naïve et même d'érotisme touchant, et ils avaient, si vous voulez, greffé cette image sur à leur amour immodéré pour le rock'n'roll des origines le plus obscur. C'était de grands collectionneurs. Ils avaient une série de 45 tours absolument introuvables, en particulier ceux des disques Sun. Sur scène, je les ai vus, les Cramps étaient surtout capables de créer, lors de leurs concerts, grâce à leur recours à des rythmes tribaux, très répétitifs, une transe collective qui vous rendait euphorique, dingue, enfin incontrôlable, hein, selon votre degré d'alcoolémie ou d'autres choses. Alors ceux qui sont, en tout cas, allés voir ce groupe peuvent en témoigner. Alors bien sûr, quand j'essaie d'évoquer l'influence amérindienne dans le rock'n'roll, il ne s'agit pas, vous le comprenez bien, de la recherche de racines ethniques chez les musiciens, ou d'une rigoureuse recherche musicologique dont ce serait strictement incapable. Le folklore amérindien et ses rythmes binaires, alors certains historiens prétendent même que le rythme binaire du rock'n'roll, le fameux 4-4, viendrait d'eux, des Indiens d'Amérique. Alors je suis évidemment incompétent pour entrer dans ces considérations. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'imaginaire amérindien a imprégné les musiciens de rock, même si, bien sûr, c'était le fruit des films de cow-boys et d'indiens, enfin une vision caricaturale né, développé à Hollywood. Quand les enfants de ma génération allumaient leur téléviseur dans les années 60, il était fréquent qu'ils tombent sur des types à moitié nus, couverts de plumes, qui poussaient des cris et lançaient des flèches. Et régulièrement, on voyait ces gars, on les entendait frapper sur des tambours et entonner des chants tribaux envoûtants, sourds et répétitifs. Alors honnêtement, je n'imaginais pas que c'était une des choses du rock'n'roll, mais enfin, si l'on en croit les témoignages réunis dans ce documentaire qui a pour titre, je le rappelle, Rumble, The Indians That Shook The World, il semblerait que si. Une illustration de ça, eh bien, elle est inattendue, c'est l'inoubliable Gary Glitter. Gary Brillant, si vous préférez. Et oui, ça remonte à il y a longtemps, en 72, en Angleterre, Gary Glitter, bon, c'est pas son vrai nom, il s'appelait Paul Gadd de l'état civil. Il avait déjà la trentaine passée en 72, c'était un petit homme qui prenait des poses martiales, hein, le bras tendu, moulé dans un costume à paillettes argentées et juché sur des bottes à semelles compensées. Si vous voulez, c'était un peu la version bas de gamme du premier, enfin pas du premier, enfin du David Bowie de l'époque, enfin une sorte de super-héros qui casse les prix, si vous voulez. Et c'était très marrant. En tout cas, dans ce titre qui a fait sa gloire en 72, Rock'n'Roll Part 2, hein, il y avait la Part 1, mais Part 2 c'était mieux, sur lequel alors tous les jeunes de l'époque ont dansé en boîte, il y a clairement, mais très clairement, une inspiration amérindienne avec ce rythme oppressant et ses chœurs caractéristiques. Alors bien sûr, une inspiration de pacotille, mais elle est très présente. Enfin, en tout cas, c'est troublant qu'un titre qui s'appelle Rock'n'Roll repose d'une façon aussi patente sur un rythme tribal amérindien. We'll be right back. Can the Can, ça remonte à l'année 1973. Ça a été le premier tube de Suzy Quatro, qui a été la pionnière, une des pionnières du rock'n'roll au féminin. Elle a été lancée à Londres et pourtant elle n'était pas anglaise. C'est une jeune musicienne qui était originaire de la ville américaine de Détroit et qui avait été entraînée par un producteur artistique anglais qui l'avait découverte donc au cours d'un voyage là-bas. Alors cette petite femme avait à l'époque 22-23 ans. Elle avait créé son premier groupe à l'âge de 15 et elle se présentait sur scène. Alors ça a beaucoup inspiré celle qui d'ailleurs a été vraiment son émule, Joan Jett, en combinaison de cuir, de motarde, et rapportée à sa petite taille, la guitare basse dont elle jouait avait l'air vraiment d'un engin absolument colossal. Alors cette image de Bad Girl, bah, comme je l'ai dit, ça a clairement inspiré Joan Jett et ça a beaucoup marqué les jeunes gens de l'époque dont je faisais partie. Suzy Quatro a eu une série de tubes, en gros jusqu'à la période punk, après quoi il s'est effacé. Voici en tout cas ce qu'elle a déclaré en 2002 à un journal anglais, je la cite. « J'ai été la première fille dans le rock'n'roll à avoir du succès à la tête d'un groupe de garçons et à être capable de jouer correctement d'un instrument. » Ben oui, il fallait le faire. En tout cas, toute une part du glam rock, de ce qu'on appelait le glam rock de ces années-là, Gary Glitter et Suzy Quatro qu'on a entendu, eh bien, c'est Toute cette musique-là a été marquée par des rythmes tribaux, martelés et répétitifs qui renvoyaient à l'imaginaire amérindien, hein, avec ses cris scandés à l'unisson. Et une dizaine d'années plus tard, même un peu moins, 7-8 ans plus tard, ce qu'on a désigné aussi comme un courant tribal à Londres, hein, au tout début des années 80, mais c'était flou, a profondément marqué la mode comme la musique destinée aux très jeunes. C'était la période de la mode dite pirate, hein, alors on voyait des pantalons à larges rayures, des redingotes brodées aux larges rangées de boutons qui ont énormément inspiré Michael Jackson. Et à cette période, l'ancien manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, avait prétendu avoir découvert dans une laverie à Londres une gamine, 13 ans à l'époque, qui se prénommait Annabella, qui était d'origine birmane et qui chantait à tue-tête. Alors il l'avait embauchée, il l'avait fait travailler avec les anciens accompagnateurs de Adam, qui était le leader d'un groupe punk qui avait un peu loupé le coche, Adam and the Ants. Alors il avait viré le chanteur et gardé les accompagnateurs. Le groupe s'appelait Bawawa, hein, c'est l'onomatopée pour dire Wawa, hein, en anglais. Alors bon, soyons honnêtes, les rythmes tribaux dont s'inspirait Bawawa avaient rien à voir avec les Indiens d'Amérique. En fait, McLaren avait découvert un disque de percussion du Burundi qu'il avait emballé, inspiré. Mais enfin, à l'époque, ça allait avec une image tribale, amérindienne, peinture de guerre et sauvagerie, entre guillemets, affichée. Alors une dernière chose, ce titre de Bawawa que vous allez entendre s'appelle Seether. C60, C90 Go, hein, C30, C60, C90, hein, ça vous dira peut-être quelque chose. C'était une provocation de McLaren contre l'industrie du disque, puisque c'était un hymne au piratage de la musique. Oui, à l'époque, en 1980, évidemment, ça ne se faisait pas par téléchargement, on était loin de l'invention de l'Internet, enfin, en tout cas de sa diffusion, mais par copie des vinyles sur cassette audio, et je suis sûr qu'il y a des coupables qui nous écoutent ce soir. I'm
Very Good Trip sur France Inter.
On les a oubliés ceux-là. Ant Music, c'était important, un tube britannique en 1981 pour le groupe Adam and the Ants dont je vous parlais juste avant. Et il faut dire que Adam Ant avait pris une sacrée revanche sur Malcolm McLaren qui avait débauché ses musiciens pour créer Bawawa en le laissant sur le carreau. Eh bien, Adam s'était relevé très très vite, il avait embauché d'autres musiciens et avec ses nouveaux accompagnateurs, c'est ce nouvel Adam and the Aliens, eh bien, ils ont été un des rares groupes de la période dite néo-romantique, hein, proche de cette mode pirate, qui se sont plus inspirés de rythmes tribaux que les autres groupes de ce courant, et qui étaient plutôt électropop et qui vraiment vénéraient tous Kraftwerk et David Bowie, comme c'était la mode en ce temps-là. Adam a beaucoup joué sur l'imaginaire amérindien avec peinture de guerre et vêtements ethniques. Alors bon, là on a exploré jusqu'ici l'influence que cet imaginaire a exercé, souvent d'ailleurs inconsciemment, sur des groupes qui ont eu un succès éphémère, pour qui il s'agissait d'une mode ou d'un jeu. Demain et après-demain, on reviendra sur des musiciens amérindiens qui ont imprimé leur marque sur le rock américain. Alors on va un peu anticiper, parce que ceux qu'on va entendre à présent sont de véritables amérindiens. Alors ils sont très très peu connus. Ils ont enregistré une poignée d'albums au milieu des années 70 pour la célèbre marque de Détroit Motown, hein, consacrée à la musique noire populaire, mais enfin pas seulement, la preuve. Ce groupe s'appelait XIT, XIT, c'est leur nom, et ils venaient du Nouveau-Mexique. Alors ce titre que j'ai trouvé sur YouTube, parce que c'est absolument introuvable autrement, est extrait d'un album de funk pop léger du milieu des années 70, signé donc XIT, et qui s'appelle Silent Warrior. Mais enfin, ce titre, Reservation of Education, qui porte une revendication comme ça d'existence et de reconnaissance pour l'ensemble des Amérindiens, a quelque chose de plus viscéral.
Years, I finally The whole Cherokee Nation put us on this reservation, took away our way of life. Tomahawk and the Bowie knife took away our native tongue, taught their English to our young. And all the beads we made by hand are nowadays made in Japan. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud you lived, so proud you died. They took the whole Indian nation, put us on this reservation.
Des chansons les plus célèbres consacrées au sort de la population amérindienne. Elle s'appelle The Lament of the Cherokee Indian Reservation, soit la complainte de la réserve indienne Cherokee. Cette chanson a été un tube en 68. Il faut dire qu'elle a suivi un chemin assez complexe. Son auteur est un musicien sudiste, hein, qui est l'auteur de quelques titres de rock et country très populaires dans les années 60. Je pense à Tobacco Road, c'est un des standards de la période qui a été adapté en français d'ailleurs par Dick Rivers. Et cet auteur s'appelait, également interprète, s'appelait John D. Loudermilk. Et en 68, c'est un chanteur anglais qui est passé d'ailleurs par un groupe pas très connu, les Sorrows, plutôt bon d'ailleurs, qui s'appelait Don Farden, qui a eu l'excellente idée de la reprendre. Et sa version est d'ailleurs bien meilleure que celle du groupe américain Paul Revere and the Raiders, qui est très populaire aux États-Unis, qui est un peu ultérieur, un groupe excellent, mais enfin bon, quasiment inconnu chez nous. En tout cas, c'est une chanson qui exprime la désolation du peuple Cherokee parqué dans des réserves. Hein. Je cite, ils ont capturé toute la nation Cherokee, ils ont enseigné l'anglais à nos enfants, et les perles qu'on sertissait à la main sont aujourd'hui assemblés au Japon. Bon, c'était sans doute vrai au milieu des années 60. Pour se quitter, une autre évocation par des Anglais du sort de la population des Indiens d'Amérique, c'est inattendu, enfin, est-ce que ça l'est tellement ? Je ne sais pas. C'est un hymne dû à un des groupes les plus populaires auprès des amateurs de hard rock, hein, les banlieusards londoniens de Iron Maiden. La chanson s'appelle Run to the Hills, elle remonte à l'année 82, ça rappellera sûrement d'excellents souvenirs à certains, comme à Stéphane Ronxin qui réalise l'émission, dont c'était le groupe préféré. Oui, voilà, il confirme. Et à l'album The Number of the Beast, hein, c'est le premier, voilà, je parle sous son contrôle, comme on dit, où on entend chanter Bruce Dickinson. La chanson est signée par le bassiste du groupe Steve Harris, qui adopte le point de vue d'un narrateur qui s'exprime au nom de la collectivité amérindienne et tente de faire partager à l'auditeur le sort pathétique qu'ont dû subir ces populations. Obligé d'interrompre cette cavalcade effrénée de Iron Maiden, Run to the Hills, l'évocation du sort de la collectivité amérindienne. Je remercie chaleureusement Stéphane Ronxin, voilà, qui a gardé un amour intact pour ses premiers, voilà, pour cette première passion de rock. Voilà. Elisabeth Collet à la technique, Zora Ben Smiley pour le site internet, Romain Couturier.